France Culture. Le journal. Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 9h. Donald Trump met les pays de l'OTAN sous pression. Il se dit prêt à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie à condition que les membres de l'Alliance n'achètent plus de pétrole russe. Des dirigeants arabes et musulmans réunis au Qatar, un sommet en urgence pour condamner l'attaque israélienne qui a visé des responsables du Hamas dans la capitale qatari. Une première victoire pour la CGT dont la secrétaire générale sera reçue demain à Matignon, mais largement insuffisante. Sébastien Lecornu renonce à supprimer 2 jours fériés et exclut de relancer le conclave sur les retraites. Et puis, face aux cyberattaques qui se multiplient, la France ne peut pas se défendre seule. C'est au niveau européen qu'il faut développer une souveraineté numérique, constat dressé aux universités d'été de la cyber et du cloud de confiance. Donald Trump met un peu plus la pression sur les pays de l'OTAN. Le président américain affirme être prêt à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. Il pose toutefois ses conditions, que tous les pays de l'Alliance le décident également et que tous arrêtent d'acheter du pétrole russe. Virginie Pironon.
Début septembre, Donald Trump avait déjà fait part de son mécontentement aux dirigeants européens de la coalition des volontaires réunis à Paris. Dans le viseur du président américain, mais aussi de la majorité des membres de l'Union européenne, la Hongrie et la Slovaquie. Peu après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, Bruxelles a interdit la plupart des importations de pétrole russe, sauf pour Budapest et Bratislava, dont les gouvernements, connus pour leur position conciliante avec le Kremlin, avaient plaidé leur trop forte dépendance vis-à-vis de Moscou et obtenu une dérogation, le temps de trouver une alternative. 3 ans et demi plus tard, les deux pays continuent les importations via l'oléoduc Droujba, amitié en russe, un pipeline qui provoque la colère de l'Ukraine, qu'il a visé à plusieurs reprises ces dernières semaines. De quoi permettre à Donald Trump, qui tergiverse sur l'adoption de nouvelles sanctions envers la Russie, de jouer sur ce manque d'unité de la part des Européens. À Moscou, Vladimir Poutine, lui, continue à gagner du temps pour sa guerre d'usure en Ukraine.
L'OTAN de plus en plus directement confrontée à la menace, justement, de Moscou. 4 jours après l'intrusion de drones russes en Pologne, la Roumanie, autre pays membre de l'Alliance, annonce qu'un appareil sans pilote a violé son espace aérien. Bucarest n'accuse pas directement Moscou, mais assure que cet événement a eu lieu lors d'une attaque russe contre des infrastructures en Ukraine voisine. L'armée roumaine a dépêché dans la soirée 2 avions de combat pour surveiller la situation. Les Polonais et l'OTAN ont aussi déployé des moyens aériens. Autre région du globe sous tension, le Moyen-Orient. Après les frappes israéliennes au Qatar qui ont semé un vent de panique, Doha accueille aujourd'hui et demain un sommet arabo-islamique. Les dirigeants de la région resserrent les rangs et doivent s'accorder sur une riposte commune. À Doha, Marie-Pierre Véraud.
Iront-ils au-delà des mots? C'est toute la question qui entoure ce sommet voulu par le Qatar, qui a promis de ne pas laisser impunis les attaques sans précédent menées par Israël. Ce sera une réponse collective dans le cadre légal, précisent les autorités. Elle pourrait être judiciaire pour sanctionner le premier ministre israélien qu'il désigne comme un criminel de guerre. Il faut tracer des lignes rouges face à ce qui est perçu comme un risque de chaos, car si Donald Trump a promis à Doha qu'il n'y aurait plus de telles frappes sur son sol, Benjamin Netanyahou s'est empressé de dire que les dirigeants du Hamas ne seraient en sécurité nulle part. Tous redoutent donc de ne plus être à l'abri d'une attaque à leur tour et s'interrogent sur la solidité du parapluie américain. Mais ils n'ont guère d'alternative pour leur défense. L'exercice est donc délicat. Il ne faudrait pas froisser Donald Trump qui continue à soutenir Benjamin Netanyahou. D'ailleurs, si les Émirats Arabes Unis ont convoqué le chargé d'affaires israélien pour dénoncer une lâche attaque, ils n'ont pas été jusqu'à rappeler leur ambassadeur. Les dirigeants de la région vont donc s'employer à dénoncer avec vigueur l'attaque israélienne, mais ils doivent aussi convaincre Donald Trump de contenir l'appétit de guerre du premier ministre israélien, car c'est bien Washington et non Doha qui détient la clé.
Et alors que s'ouvre ce sommet, le secrétaire d'État américain, justement Marco Rubio, est arrivé ce matin en Israël après avoir exprimé le soutien inébranlable des États-Unis à son allié malgré les frappes au Qatar. Pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, seule l'élimination des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre à Gaza. L'Australie investit l'équivalent de près de 7 milliards d'euros dans un chantier naval capable de construire une flotte de sous-marins nucléaires, un investissement sur 10 ans. L'accord passé en 2021 entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis pour contrer l'influence croissante de la Chine en Asie-Pacifique pourrait être remis en question par Washington. France Culture, 9h05. Le Premier ministre Sébastien Lecornu l'a annoncé hier soir. Il renonce à la suppression de 2 jours fériés proposés par son prédécesseur pour combler le déficit budgétaire. Il ferme aussi la porte à un nouveau conclave sur les retraites. Annonce faite dans un entretien à la presse quotidienne régionale après un premier déplacement à Mâcon, en Bourgogne-Franche-Comté. Elles sont saluées par les syndicats qui les jugent toutefois insuffisantes. Écoutez par exemple la réaction de Nathalie Bazire, secrétaire confédérale de la CGT.
On peut déjà dire que c'est une première victoire due à la mobilisation du 10 septembre, hein, qu'elle soit citoyenne comme syndicale. On avait appelé à la grève. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il doit revenir sur la réforme des retraites, ce qu'il ne souhaite pas faire. Il va falloir continuer à se mobiliser pour que ce soit le cas.
Donc, cette annonce ne vous fait pas renoncer à la mobilisation du 18 septembre ?
Absolument. Et on appelle à une mobilisation massive par la grève dans les entreprises, qu'elles soient du public comme du privé. Et évidemment, on appelle le mouvement citoyen à nous rejoindre. Qui plus est, les 2 jours fériés, c'était encore un coup de massue supplémentaire après les 2 ans de travail supplémentaire pour les travailleurs et les travailleuses. Donc, on a besoin vraiment que le Premier ministre donne des signes forts en direction du monde du travail, justice fiscale, justice sociale, et en premier, l'abrogation de la réforme des retraites. Que le Premier ministre se déplace voir les personnels des hôpitaux publics, de la santé, de l'action sociale en général, ça peut être une très bonne chose. Maintenant, il va falloir passer aux actes et qu'il y ait des décisions concrètes. Si on continue et on maintient le cap des 40 milliards d'euros d'économie dans le budget tel qu'il était présenté par M. Bayrou, on va continuer à détruire l'hôpital public tel qu'on le fait depuis des années. Donc, il va falloir des actes concrets par du financement et qu'on décide que l'hôpital public, ça doit être un service public de haut niveau qui réponde aux besoins des citoyens de ce pays.
Nathalie Bazire de la CGT, interrogée par Mercia Nezic. Hier, lors de son déplacement à Mâcon, Sébastien Lecornu a promis une offre de soins à 30 minutes de chaque Français en bâtissant un réseau France Santé. Il espère que 5000 maisons France Santé seront disponibles en 2027, conçues sur le modèle des maisons France Service, qui propose un guichet unique de proximité pour diverses démarches administratives. Il n'a toutefois pas précisé le coût d'une telle mesure et s'il utiliserait les structures déjà existantes. Nous vous en parlons régulièrement. Les cyberattaques continuent de se multiplier en France. Cette semaine encore, au moins 3 agences régionales de santé des Hauts-de-France, de Normandie et des Pays de la Loire ont été touchées par un vol de données des patients. Face à ces menaces, la cybersécurité est devenue un enjeu stratégique, économique et géopolitique qui doit être protégé avec une souveraineté numérique renforcée. Et ce, grâce à une autonomie stratégique et technologique. Plus facile à dire qu'à faire, réunis cette semaine au Université d'été de la cyber et du cloud de confiance, les acteurs du numérique ont tous partagé un même constat. En matière de souveraineté du numérique, la France ne peut agir seule. C'est désormais vers l'Europe qu'il faut se tourner, Pierre Robert.
Aujourd'hui, une entreprise sur deux a déjà écarté une solution numérique faute de garantie sur la souveraineté, selon un baromètre de l'association Exatrust. Pour Jean-Noël de Galzin, le président de cette association, qui regroupe 150 sociétés dans les secteurs de la cybersécurité et des solutions numériques, il est temps d'inciter à se tourner vers des solutions plus locales.
Nous perdons 120 milliards chaque année qui partent outre-Atlantique ou en dehors d'Europe parce que nous achetons mal le numérique ou nous achetons trop de produits extra-européens. Le numérique, la cyber, le cloud, la tech française et européenne, elle est en plein boom. Achetons nos solutions numériques et cyber dans notre écosystème.
Alors que les États-Unis occupent aujourd'hui encore 83% de nos achats numériques, rappelle Jean-Noël de Galzin, il est impératif de développer des champions européens du numérique.
Rappelez-vous ce qui s'est passé sur les médicaments lors du Covid. Est-ce qu'on va se retrouver de la même manière dans un monde dans lequel on va devoir passer après d'autres pour utiliser de la bande passante, pour avoir accès à nos services numérique essentiel. Il faut se préparer à avoir des alternatives européennes.
Un constat que partage Florent Kirchner, directeur du pôle souveraineté numérique au sein du secrétariat général pour l'investissement. Pour lui, il faut se tourner vers l'Europe où des règles sont déjà établies.
Il n'y aura pas de numérique souverain uniquement en France. Et la France, aux côtés des autres États membres, doit prendre une place dans la construction technique de ce numérique à une échelle qui est européenne à l'heure où le numérique change tout.
Ce numérique souverain européen devrait notamment permettre de développer un écosystème pour protéger les PME. En 2024, 67% des entreprises françaises ont été victimes d'au moins une cyberattaque, un chiffre en constante augmentation.
Le temps aujourd'hui perturbé sur les deux tiers nord avec de la pluie et du vent ensoleillé du sud de l'Aquitaine à la Corse. Les températures maximales 18 à 24 degrés en général, 25 à 28 du sud-ouest à PACA, 31 à 32 en Corse et autour de la Méditerranée.